Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, dans la nuit du jour très saint où le Seigneur a ressuscité d'entre les morts, nous étions réunis autour du feu pascal et le cierge symbolisant le Christ ressuscité a été consacré. C'est une vieille tradition dans les Saintes Écritures. Avant que ne commence le sabbat, on allumait les lampes. La lumière du cierge pascal figure tout d'abord ce peuple qui marchait dans les ténèbres et qui a vu se lever une lumière, la lumière de Dieu. Cette lumière qui brille dans les ténèbres et que les ténèbres ne peuvent arrêter. C'est l'image du peuple de Dieu que nous formons à la suite du peuple élu d'Israël. Nous marchons dans les ténèbres de ce monde, mais comme pour eux, dans la nuit de ce monde, resplendit alors la colonne lumineuse. La symbolique du cierge pascal est forte. Le cierge provient tout d'abord des fleurs qui, par le truchement des abeilles, va nous donner la cire et symbolise alors la chair du Seigneur. Cette chair livrée que nous avons contemplée au jour de la Passion, entendant le prophète Isaïe entrevoir l'horreur du crucifié, il ne ressemblait même plus à un homme, homme de douleur. Et saint Pierre de reconnaître, c'était nos douleurs et nos péchés qu'il portait sur le bois de la croix. Si la cire figure la chair du Seigneur, la mèche symbolise son âme et la flamme symbolise la divinité du Seigneur. Le Seigneur fut auprès de nous pendant 40 jours en tant que ressuscité. Il a enseigné les apôtres, les a instruits en particulier. Il a racheté le triple reniement de Pierre par cette triple question qui nous pose. M'aimes-tu ? M'aimes-tu d'amitié ? M'aimes-tu comme une créature spirituelle doit adorer Dieu ? Oui, Seigneur, nous vous aimons. En ce jour où nous vous contemplons, quittez notre terre pour monter à la gloire du ciel. Et le cierge qui s'est éteint avec cette petite fumée manifeste l'ascension du Seigneur. Il est monté à la gloire du ciel d'où il était tout d'abord descendu. La fête de l'ascension nous permet d'entrevoir l'ensemble du mystère de l'incarnation. Nous l'avons entendu dans les Écritures nous dire « Celui qui monte à la gloire du ciel est d'abord celui qui en est descendu. » Mais il nous faut même remonter avant cela, au commencement. Au commencement, en Adam et Ève, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous provenons de cette bonté de Dieu. Voilà un mot admirable, la bonté, qui est la conjugaison de l'amour et du bien. Il est dans la nature de l'amour de se donner, il est dans la nature du bien de se communiquer, et la conjugaison de l'amour et du bien forme la bonté. Toute la création est marquée par cette bonté de Dieu, mais lorsqu'il créa l'homme et la femme, dans cette complémentarité qui seule engendre la vie, qui seul peut revendiquer être à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu vit que cela était très bon. Nous provenons de cette extrême bonté de Dieu, et voilà que le péché va venir compromettre cette grande bonté avec laquelle nous avons été créés. Avant le péché, le Verbe créateur, celui dont la parole créatrice a tout mis en ordre, gouverner invisiblement le monde. Il n'avait pas besoin de venir dans la chair, Il était Dieu, il n'y avait pas de péché, nos premiers parents étaient parfaitement perméables à la grâce de Dieu, de telle sorte qu'on aurait pu saluer Adam et Ève par les mêmes mots que l'archange Gabriel utilise pour saluer la Vierge Marie, la nouvelle Ève. Ils étaient comblés de grâce et le Seigneur était avec eux. Eh bien voilà qu'avec le péché, ce gouvernement invisible du Verbe va devoir peu à peu, dans la pédagogie divine, se donner à voir et à entendre. Voilà que le gouvernement invisible du Verbe va accompagner Moïse. Il va se manifester, celui que nous appellerons le Christ, d'abord sous les traits de la colonne lumineuse qui conduit le peuple à travers les ténèbres de ce monde. Il va se donner à entendre dans le buisson ardent, signifiant qu'il est le Dieu de nos pères, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais surtout qu'il est, celui qui était, celui qui serait. Car le Seigneur est l'Éternel, toujours à nos côtés, en consacrant le cierge dans la nuit de Pâques. Nous avons bien dit qu'à lui revient le temps et l'éternité. Et nous avons gravé le cierge pascal de ce chiffre d'an de grâce 2024 après son incarnation. Il est la lumière qui vient nous guider dans les ténèbres. Il a été cette voix, le Verbe, qui a communiqué à Moïse les 10 commandements. Et ces 10 commandements étaient présents dans l'arche de Dieu, Dieu qui marche au milieu de son peuple, Dieu qui le devance pour faire passer même les eaux du Jourdain à pied sec et entrer alors dans la terre promise. Car ce peuple dans les ténèbres marche dans le désert de ce monde vers une terre promise. La terre d'Israël, promise à Dieu, contestée aujourd'hui par bien des barbares de notre temps. Eh bien voilà que Moïse, qui contemple avec le Jourdain cette terre promise, meurt avant d'y mettre les pieds, car le Christ est le nouveau Moïse, celui qui peut vraiment entrer dans cette terre promise, qui n'est pas seulement une terre ici-bas, mais qui est le royaume des cieux, qu'il vient ouvrir par sa croix. Ce gouvernement invisible qui se rend visible dans la loi, dans l'arche d'alliance, dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, va aller jusqu'à s'incarner. Voilà que le Dieu va devenir homme en demeurant Dieu pour que nous, hommes, puissions rejoindre Dieu dans la gloire du ciel. C'est toute l'articulation de ce jour d'action de grâce, de ce jour de l'Ascension. Il est donc descendu, né du sein très pur de la Vierge Marie et s'est fait pauvre en se faisant homme. Il a quitté la gloire de sa divinité. Et s'il s'est fait pauvre, c'est pour nous indiquer le chemin de la porte du ciel qui est cette pauvreté intérieure que nous appelons l'humilité et qui prend à revers l'orgueil par lequel nous commettons les péchés à la suite de nos premiers parents. Le Verbe s'est fait chair. Les bergers de Bethléem, comme ceux de ce pays Toï, sont venus à travers les âges l'adorer, reconnaître qu'il est le bon berger, celui qui nous guide vers les verts pâturages d'ici-bas, certes, mais vers les verts pâturages de la vie éternelle. Avec les marges, c'est l'ensemble des nations, non plus seulement le peuple élu qui est concerné par ce Sauveur. Il est le Sauveur d'Israël, le Messie, le Christ, mais il est également le Sauveur de l'ensemble du genre humain. Avec les marges, peuple de toutes langues et nations, nous venons l'adorer. Nous lui offrons les présents que nous avons reçus de lui et que nous mettons alors à son service. Ce Verbe qui s'est rendu visible dans son incarnation a d'abord vécu aux côtés de la Bienheureuse Vierge et de Saint Joseph une vie cachée. Parce que le travail humble et quotidien, le travail bien fait qui apporte la dignité de celui qui travaille, le Seigneur l'a connu. Avant de bâtir la maison qui est l'Église, il a appris à bâtir des maisons concrètes de Saint Joseph. Et pour bâtir cette maison, l'Église, qui est son épouse, voilà que le Seigneur est élevé sur le bois de la croix. Ô terre du calvaire, tu as vu s'élever celui qui attire tous les hommes et nous laissons le Seigneur nous attirer en ce jour de cette terre jusqu'à la gloire du ciel. Non seulement il était innocent pour toutes les fois où nous étions coupables, non seulement il était vainqueur de nos tentations pour toutes les fois où nous nous laissons vaincre par elles, mais il était surtout venu pour prendre sur lui nos péchés. Il a même été identifié au péché. Plongé dans l'obscurité du tombeau, il est mort pour cette mort qui te guette, pour cette mort, chrétien, qui t'attend. Voilà que le Verbe de Dieu s'est rendu visible même dans l'obscurité du tombeau. Il est la lumière qui vient vaincre les ténèbres et il se lève en ressuscité. Et à travers la résurrection du Seigneur, c'est ta propre résurrection qu'il t'est donné d'entrevoir. Car tu n'es plus seulement fait pour cette terre ici-bas, pour cette harmonie retrouvée avec la création et avec Dieu. Dieu t'appelle à cette création nouvelle qui est la vie éternelle. Alors le Seigneur ressuscité est venu instruire les apôtres et dire aux apôtres que pour faire des disciples, il fallait les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, dans l'individualité de nos naissances, devons être greffés au Seigneur qui est la vigne véritable. Nous sommes les sarments. Parfois le bon Dieu dans notre vie spirituelle nous émonde parce que nous sommes ici-bas pour porter du fruit et du fruit en abondance. Avec les apôtres, nous entendons le Seigneur ressuscité nous envoyer de toutes les nations pour faire des disciples. Et nous demandons au Seigneur le courage, l'audace, alors que nous attendons en ce temps de l'Ascension, le don du Saint-Esprit donné à Pentecôte, cette force de pouvoir témoigner du Seigneur mort et ressuscité. Par lui, nous avons reçu la vie et une vie en abondance manifestée au jour de la résurrection. Là s'enracine notre espérance. Alors nous contemplons en ce jour l'ascension glorieuse du Seigneur. Il monte à la gloire du ciel d'où il était descendu. Il monte à la gloire du ciel dans son corps glorieux de ressuscité. Il a manifesté aux apôtres pour se faire reconnaître chacun des traits de la passion. Et le cierge pascal symbolisant le Christ est percé des 5 graines d'encens pour nous souvenir que le ressuscité porte les marques de la passion, porte les marques de l'amour qu'il nous a porté pour nous racheter. Ce cierge éteint porte quand même une espérance, celle que le Christ nous attend là-haut. Mais il nous dit « Je ne vous laisse pas orphelins ». Non seulement il envoie l'Esprit Saint, qui est l'Esprit d'amour qui unit le Père et le Fils, et nous sommes alors habités par cet Esprit, mais voilà également que le Seigneur continue à descendre et remonter du ciel. Il descend sur l'autel où nous renouvelons son sacrifice et dans la Sainte Communion, voilà que le Seigneur qui est descendu dans nos mangeoires intérieures pour y faire sa demeure, remonte au ciel et nous communions après communion un peu davantage avec lui. Le Seigneur est donc assis à la droite du Père, ont précisé les Écritures. C'est la position du justicier. Oui, le Seigneur reviendra, mais non plus cette fois-ci dans l'anonymat de la vie cachée de Bethléem. Il reviendra dans tout l'appareil de sa gloire. C'est ce que nous affirme Saint Luc. De même que vous l'avez vu remonter en ressuscité, de même redescendra-t-il pour venir manifester qu'il est le maître du temps, qu'il est le maître de ce monde. Il mettra fin à cette création et établira alors le jugement de Dieu, un jugement juste et miséricordieux. Pareil à notre jugement particulier qui nous attend au moment de notre mort, ce sera alors le jugement de ce monde, le moment où le Seigneur enverra de façon définitive le démon en enfer, et où alors pourra commencer cette vie éternelle en paradis, où des guerres ici-bas, il n'y en aura plus, où des larmes d'ici-bas n'en seront plus versées, où nous serons dans la joie et la paix d'être enfin rassemblés, réunis auprès du Seigneur, auprès de la Trinité Sainte. Si le Seigneur est au ciel, nous terminerons par ce point, car c'est le grand mystère de l'Église. Le Seigneur est à la fois au ciel assis à la droite du Père, et il a en même temps les pieds sur terre. Pourquoi ? Parce que l'Église, je vous le répète, n'est pas avant tout une institution. L'Église, c'est l'ensemble du peuple des baptisés. Et nous formons par ce baptême le corps mystique de Jésus-Christ. Nous sommes comme ses pas, chaque fois que nous allons vers le plus pauvre, vers le plus démuni. Lorsque nous opérons ses œuvres de miséricorde, lorsque nous donnons à manger, à l'affamé, à boire, à l'assoiffé, des vêtements à celui qui est nu dans sa pauvreté, ou alors lorsque nous allons visiter malades et prisonniers. C'est le Seigneur que nous reconnaissons et nous sommes membres de son corps qui, ici-bas sur la terre, attend de monter, comme au jour de l'ascension, pleinement à la gloire du ciel. Celle qui devance ce mystère de réunion et de communion au ciel, c'est la bienheureuse Vierge Marie. Nous ne parlons pas pour Notre-Dame d'ascension, mais d'assomption. La différence, c'est que si le Seigneur peut monter au ciel au jour de son ascension, c'est qu'il le décide lui-même. Il peut de lui-même, de par sa divinité, s'élever à la gloire du ciel. En revanche, la Sainte Vierge ne peut pas monter d'elle-même au ciel. C'est le bon Dieu qui, dans son assomption, l'attire jusqu'à la gloire du ciel. Puisse-t-il, à la suite de Notre-Dame, la première à être dotée de son corps devenu glorieux au ciel, eh bien nous permettre, nous aussi, eh bien d'aller au ciel et de rejoindre le bon Dieu. En cette messe, ô Seigneur, à la gloire du ciel, nous vous demandons instamment d'hâter votre retour devant tant de détresse en ce monde qui préfère les ténèbres à votre lumière. Puissiez-vous, ô Notre-Dame, nous consoler de cette absence du Christ et nous nourrir de sa présence dans la Sainte Eucharistie. Ainsi soit-il.